parfois des réalités qui sont intéressantes à manipuler.
Et enfin, tout ça est une question d'imagination et de mémoire pour moi.
Panoramique, une émission sur la musique de film, un dimanche sur deux à 21h sur Radio Campus Paris.
Panoramique.
L'émission qui regarde la musique.
Panoramique.
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 Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce 10e épisode de Panoramique sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, après plusieurs épisodes consacrés à des compositeurs et des compositrices de bandes originales, de scores écrits spécialement pour des films, on va se tourner plutôt vers un sujet un peu différent. Il s'agit de la musique classique dans les films, ou plutôt des films sur la musique classique, ce qui n'est pas exactement la même chose. Beethoven dans Orange Mécanique ou encore Kostakovich dans Eyes Wide Shut, il y a des kilogrammes d'exemples d'utilisation de partitions dites classiques au cinéma. Bien sûr, mais j'ai la sensation que lorsque le sujet du film est la musique classique en elle-même, eh bien l'exercice de la BO devient vraiment plus singulier que pour tout autre type d'habillage sonore. On a l'exemple du film Tar qui est actuellement en salle et qui nous a montré, je trouve, cette singularité. On en parlait dans l'épisode précédent, c'est l'histoire d'une chef d'orchestre carriériste et tyrannique interprétée par Cate Blanchett et qui soulève plusieurs questions concernant le traitement de ce milieu particulier de la musique classique au cinéma. Donc on va distinguer ici bien sûr les films comme Tar qui mettent en scène en fait des mécanismes professionnels, artistiques ou des situations qui sont plutôt anonymes, en tout cas qui sont clairement annoncées comme étant de la fiction, des films au contraire plus proches du biopic comme c'est le cas pour la sélection de ce soir. Alors le petit sommaire du coup, le menu de ce 10e épisode est le suivant. On va se concentrer sur une décennie en particulier, donc de 84 à 94, et sur trois films qui ont tous les trois été des succès commerciaux, alors à des degrés variés, on le verra tout à l'heure. Des succès critiques aussi, et qui ont tous les trois comme sujet la vie d'un compositeur célèbre de l'histoire de la musique. On va parler en premièrement, donc là je parle par ordre chronologique des sorties, mais ce sera pas le même ordre tout à l'heure. On va parler du film Amadeus de Milos Forman qui est sorti en 1984. On va parler aussi du film Tous les matins du monde de Alain Corneau qui est sorti en 91. Et on va parler enfin de Ludwig van Beethoven du réalisateur Bernard Rose sorti en 94. Alors avec ces trois films, on a un éventail qui est à la fois très compact mais qui est aussi très varié puisqu'on va découvrir une grande figure de la période baroque avec Marin Marais dans Tous les matins du monde. On va découvrir aussi une figure de la période classique avec Mozart bien sûr dans Amadeus et aussi une grande figure qui va relier la période classique à la période romantique avec bien sûr Beethoven dans Ludwig van Beethoven. Alors Amadeus, il est adapté d'une pièce de théâtre, Tous les matins du monde est lui adapté d'un livre, et Ludwig van Beethoven, en tout cas à ma connaissance, est une œuvre sans précédent qui ne se base pas sur un autre type de média en particulier. Mais en tout cas, le dénominateur commun entre ces trois films, à part les récompenses très nombreuses pour deux d'entre eux, c'est qu'ils sont à la fois des documentaires teinté quand même beaucoup de fiction, et on pourrait dire presque des fictions à visée documentaire, des docu-fictions, je pense que c'est le terme qui serait approprié, qu'on utiliserait aujourd'hui. En fait, il propose un regard qui est extrêmement romancé, voire même romanesque en fait, sur des personnes qui ont marqué leurs contemporains à l'histoire de la musique savante. Alors avec la notoriété qu'on connaît aujourd'hui et le talent, voire le génie de ces trois personnages, c'est vrai que ça a été accompagné de beaucoup de fantasmes et de beaucoup de légendes qui, même si elles ne correspondent pas toujours à la réalité biographique purement factuelle de Marais, de Mozart ou de Beethoven, ça a au moins eu le mérite d'amener leur nom dans la pop culture en traitant leur vie comme celle d'une icône pop ou grunge, voilà, on pense à Kurt Cobain, des gens comme ça. Ce parti pris dans la façon de raconter ces trois destins, on va en parler dans un instant. Il se remarque aussi dans la façon de sélectionner des œuvres qui vont faire partie de l'environnement musical de la BO de ces films. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire un best-of, de tout mettre ou de faire encore pire un medley. Au contraire, je trouve qu'il y a un équilibre assez précis et assez inédit d'œuvres très connues et d'œuvres de jeunesse dans tous les films. On n'a d'ailleurs pas uniquement des œuvres composées par les personnages centraux, parce qu'on retrouve aussi des œuvres de leurs maîtres de jeunesse, par exemple des œuvres de Salieri dans Amadeus, ou des œuvres de Sainte-Colombe dans Tous les matins du monde. Je crois que Ludwig van Beethoven, c'est le seul qui est agrémenté d'ailleurs d'œuvres qui ont été spécifiquement composées à notre ère de maintenant pour le film, on écoutera ça tout à l'heure. Mais il faut savoir qu'Amadeus et Tous les matins du monde sont classés comme des drames, alors que Ludwig von B est classé comme une romance. Donc ça aussi, on y reviendra, ça raconte aussi beaucoup de choses sur le processus d'assemblage de la bande originale. Alors sans plus attendre, on envoie, vous écoutez Panoramix sur Radio Campus Paris et l'heure est aux gambistes avec ce premier sujet sur le compositeur baroque Marin Marais.
C'est alors qu'un grand enfant de 17 ans, rouge comme la vieille crête d'un coq, vint frapper à la porte. C'était moi.
Je ne pense pas que je vais vous admettre parmi mes élèves.
Dites-moi pourquoi ?
Vous faites de la musique, monsieur. Vous n'êtes pas musicien.
Attendez, père, attends ! Monsieur Marais a peut-être en mémoire un air de sa composition. C'est bien, père. C'est très bien.
Qu'en dites-vous ?
Revenez dans un mois. Je vous dirai alors si vous avez assez de valeur pour que je vous compte au nombre de mes élèves.
Austérité. Il n'était qu'austérité et colère.
Alors ce film, il porte le nom du roman de Pascal Quignard, Tous les matins du monde. En entier, Tous les matins du monde sont sans retour, qui est l'aphorisme qu'on retrouve dans le livre. Et en fait, dans le film, Tous les matins du monde sont sans retour, cette phrase, elle est mise dans la bouche de Marin Marais, le jeune Marin Marais, qui est interprété par Guillaume Depardieu. Dans ce film, il est plus troublant et plus touchant que jamais, je trouve. Et en fait, ce film, il s'appelle ni Marin ni Marais, ou ni même Marin Marais. Il peut donc pas être confondu avec un biopic classique, ni avec un documentaire qui serait 100% factuel. On a d'emblée cette portée plus poétique avec ce bout de phrase un peu fataliste qui nous indique qu'on va poser un regard très subjectif sur la vie du personnage. Alors comme dans Amadeus, ici l'histoire elle est vraiment centrée autour d'un jeune génie de la musique qui va se retrouver sous l'aile d'un maître de musique qui est très austère, très sévère. Et en fait, ce personnage central, personnage de Marais, il va progressivement vendre son âme au diable, on pourrait dire, en fréquentant les mondanités de la cour auxquelles son rang de génie lui donne accès. Il y a vraiment un antagonisme extrêmement fort entre Monsieur Sainte-Colombe, qui est joué par Jean-Pierre Marielle, et le jeune Marin Marais. Sainte-Colombe étant un peu une sorte de professeur rogue dans cette équation, si on peut dire. C'est un personnage qui est endeuillé, qui est extrêmement sombre, talentueux, mais très très sinistre, qui est un peu misanthrope. Une sorte de version dark en fait du vieux sage dans sa montagne, sauf que lui il vit littéralement dans une cabane au fond du jardin avec ses deux filles. Et puis on a ce Marin Marais au début qui est très admiratif, extrêmement craintif, qui va postuler en fait pour être l'un des élèves de Sainte-Colombe et qui va progressivement se laisser enivrer par son succès. Qui va connaître une ascension sociale extrêmement brutale, et puis la suite logique, si on peut dire, ce sera uniquement des désillusions et des regrets. Alors je ne spoil rien, hein, c'est juste une règle élémentaire de la vie humaine artistique racontée au cinéma. En tout cas, dans Tous les matins du monde, la BO est vraiment magnifique. On va écouter trois extraits. D'abord, l'improvisation sur les Folies d'Espagne, qui est probablement l'œuvre la plus connue du film. C'est cette fameuse danse, la Folia, apparue au Portugal au XVe siècle et qui était très souvent reprise, réadaptée par beaucoup de compositeurs baroques à l'époque. Donc, par exemple, par Lully ou par Vivaldi. C'était un peu le Highway to Hell qu'on entend à toutes les fêtes de la musique aujourd'hui. La Folie d'Espagne, c'est vraiment le passage obligé si tu veux percer dans le game de la musique baroque à la cour du roi. Et en fait, Marais ne déroge pas à cette règle puisqu'on va entendre cette pièce magnifique donc qui s'approprie lui dans la bande originale. Alors il y a plein de variations, c'est une pièce qui a été beaucoup, évidemment à l'époque qui n'était pas enregistrée, mais qui a été beaucoup reprise et remaniée, improvisée en fait autour de ce thème. Donc on l'entendait beaucoup en concert, tout le monde faisait un peu sa propre Folie d'Espagne. Et dans la BO de Tous les matins du monde, donc c'est le chef d'orchestre et le violiste espagnol Jordi Savall qui interprète toutes les parties de viol de gambe de Marin Marais. Et c'est donc lui qu'on entend ici. C'est très court, mais c'est très beau. À tout de suite sur Radio Campus.
«
Vous êtes de retour dans Panoramique, alors ce thème vraiment beau, je vous invite si vous avez un petit peu de temps et si vous êtes curieux à aller regarder un peu toutes les versions des Folies d'Espagne sur YouTube, sur Spotify, voilà c'est très accessible, on a tous les compositeurs qui en ont fait leur propre version, c'est un puissant fond si vous voulez vous plonger dans la Folia. Également dans la BO de Tous les Matins du Monde, on en parlait, je voulais vous faire entendre un autre tube de Marin Marais que vous avez peut-être déjà entendu quelque part, c'est la sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris, une sonate tardive, une de ses plus connues en fait, qui compose alors qu'il est encore élève de Sainte-Colombe. Et le fun fact que vous pourrez ressortir à vos soirées raclette cet hiver ou à vos soirées clergé si vous voulez encore plus être dans le thème, en fait cette sonate s'appelle comme ça parce que c'est un hommage aux cloches de l'église Sainte-Geneviève à Paris. On a une note pardon, par cloche dans la basse continue du morceau, et en fait c'est exactement la même structure et la même basse qu'on va retrouver dans le morceau Frère Jacques. Voilà, alors sans plus attendre, on va sonner les matines sur Radio Campus Paris avec cette sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris.
Thank you.
Vous êtes toujours dans l'émission Panoramique. Alors on termine ce premier sujet de l'émission de ce soir qui parle du film Tous les matins du monde de Alain Carnot sorti en 91 avec un dernier extrait musical. Il s'agit de la marche pour la cérémonie des Turcs. Alors elle est pas de Marin Marais, celle-ci, elle est composée par Jean-Baptiste Lully. Pourquoi un morceau de Lully dans un film sur Marin Marais, me direz-vous? Eh bien parce que Marais a été l'élève en fait de Lully. Et ce type de morceau dans la bande originale, eh bien ça permet de donner un petit peu de perspective, un peu de contexte au destin artistique du personnage principal. C'est un morceau qui faisait partie d'une autre bande originale de l'époque, si on peut dire, puisqu'au moment de sa sortie, elle accompagnait la comédie-ballet de Molière qui s'appelait Le Bourgeois Gentilhomme. Comme vous le savez, puisque vous avez pris des notes tout à l'heure, c'est là encore monsieur Jordi Savall qui dirige l'orchestre sur ce morceau. Bonne marche et à tout de suite. On va faire un petit bond de quelques décennies en avant dans l'histoire de la musique, puisque après avoir plongé nos petites oreilles dans le délicieux bain du baroque, c'est maintenant l'heure de passer au savon du classique, mais pas n'importe lequel, le tumultueux Amadeus de Milos Forman, sorti en 84. C'est un film sur lequel on connaît déjà 1000 anecdotes de tournage. Il y a ce décor incroyable viennois qui fut recréé, tourné en réalité à Prague. Il y a aussi bien sûr les 8 Oscars sur 10 nominations l'année de sa sortie. Le fait que Milos Forman ait eu l'idée de réaliser un film sur le binôme Modi-Salieri-Mozart après avoir assisté à la pièce du dramaturge anglais Peter Schaeffer. On découvre en fait la bande-annonce que vous allez écouter maintenant. Elle est construite de manière assez marrante. En fait, elle fait entendre des voix façon Gossip Girl en stéréo avec des rumeurs les plus folles qui circulent sur Amadeus Mozart.
Are we going to appall you with something confidential and disgusting? Let's hope so, because that is what you really like. Unconfessed crimes of buried wickedness. If that is what brings you to us, the prospect of hearing horrors, you shall not go unrewarded.
I don't believe it. The whole city is talking.
You hear it all over.
What a story.
What a scandal.
What a comedy.
What a tragedy.
Incredible.
I don't believe it.
Who can believe it?
What horrors have you heard?
Tell us.
Tell us.
Tell us at once.
Tell us about Wolfgang.
Amadeus.
Mozart.
How good is he, this Mozart?
He's remarkable.
He's an unprincipled, spoiled, conceited brat.
I'm a vulgar man. But I assure you, my music is not.
He is divinely inspired. He is arrogant, vulgar, obscene. He creates music for the gods.
He is passionate.
He burns with fire.
He is an angel.
He is a devil.
He claimed he'd been poisoned.
Some said he accused a man.
Some said the man was Salieri.
Salieri?
Salieri.
I don't believe it.
All the same.
Could it be possible?
Did Salieri do it after all?
Did he murder Amadeus?
Amadeus, the man, the music, the magic, the madness, the murder, the mystery, the motion picture. Amadeus. Everything you've heard is true.
Alors en fait, ce binôme Salieri-Mozart, cette rivalité entre le maître et l'élève, elle n'a pas vraiment existé de manière si virulente et si vengeresse. Après la mort de Mozart, en fait, on a prêté une certaine responsabilité à Salieri. On disait que s'il avait été moins jaloux du génie de Mozart, il l'aurait aidé à obtenir un peu plus de confort et de reconnaissance de son vivant, ce qui aurait permis en fait d'éviter que Mozart meure si jeune, si pauvre et si malade. Alors en fait, il faut savoir que le côté farceur et outrancier et un peu balèque de Mozart ne faisait pas l'unanimité chez tout le monde, et même si son talent était par contre voilà, éblouissant et reconnu de tous, ça on le voit dans le film, mais c'est vrai, en fait Haydn lui-même a dit au père de Mozart, Léopold Mozart, votre fils est le plus grand compositeur de notre époque, ce qui est quand même un petit peu la classe. Mais par contre voilà, là, ce qui est vrai, c'est que la mort prématurée et choquante en fait de Mozart a eu le mérite d'ébranler un peu les esprits, au point que après l'époque Mozart, en fait les autres compositeurs en début de carrière ont pu bénéficier d'un traitement assez différent de la part de leurs confrères et de la part de la cour aussi, de la part des commanditaires de leurs œuvres. En fait, quand Mozart meurt, très peu de temps après, Beethoven en fait arrive lui aussi dans le game et il est beaucoup moins asticoté, pourchassé pour les taxes, les impôts, etc. On lui déroule un tapis quand même un petit peu plus rouge et un petit peu plus doux que celui qu'on déroulait quelques années auparavant au jeune Mozart. En fait, mais revenons à la musique utilisée pardon, dans le film. Sans surprise, on a un panel de plein d'œuvres connues. On a la flûte enchantée, on a l'enlèvement au sérail, la petite musique de nuit. Mais moi, la scène qui m'a le plus marquée et qui a marqué aussi beaucoup d'entre vous, j'imagine si vous avez vu le film, c'est la scène où Mozart dicte en fait à Salieri les notes de sa messe funèbre, de son requiem sur son lit de mort alors qu'il est en train d'expirer ses derniers souffles. Il va mourir dans le film le matin suivant. En fait, cette scène, il faut savoir que les deux acteurs l'ont pratiquement improvisée avec chacun une oreillette qui diffusait le vrai requiem de Mozart. Et en fait, ces oreillettes leur ont permis d'imaginer voilà, ce ping-pong assez haletant qu'on voit dans le film. Il y a la scène de la dictée, c'est vraiment Mozart qui a la musique en tête et puis qui l'a dit très très vite à Salieri pour qu'il puisse prendre des notes parce que lui n'a plus la force d'écrire sur son papier. Et à des moments en fait, du tournage, l'oreillette de Tom Hulce, l'acteur qui joue Mozart, bug à mort et il est complètement perdu. Et du coup, les deux acteurs essaient de se retrouver au même moment, mais ça rajoute aussi voilà, au côté hyper réaliste et hyper déchirant qui se joue pendant cette scène. Parce qu'il y avait vraiment un mélange de vulnérabilité et d'urgence de la part des deux acteurs. Ça fait partie aussi des scènes qui sont largement réécrites pour les besoins du film, qui ont été vraiment basculées du réel à la fiction. Parce qu'en fait, le Requiem de Mozart était effectivement, certes, une commande mystérieuse de la part d'un aristocrate autrichien, mais donc ça, on le voit dans le film, c'est vraiment un personnage masqué qui vient sonner à sa porte pour lui demander une œuvre. Donc on retrouve un peu ce côté un peu bizarre parce que c'était aussi bizarre dans la réalité. Mais d'une part, l'écriture du Requiem a commencé bien plus tôt avant la fin de la vie de Mozart. Par contre, chose qu'on voit pas dans le film, Mozart est mort avant d'avoir pu finir le Requiem et en fait c'est sa veuve Constance Mozart qui a demandé à deux compositeurs qui étaient amis de son mari de terminer la partition pour pouvoir en fait toucher l'argent de la commande et recevoir une pension. En tout cas, ce Requiem, c'est l'œuvre des œuvres de Mozart qui fait l'objet probablement du plus de rumeurs, tout aussi folles et lugubres que celles qu'on peut voir dans le film. Et je trouve ça assez plaisant finalement de redécouvrir cette musique dans une mise en scène qui fait honneur à ce côté un peu dramatique et excentrique du Requiem et du personnage de Mozart. On écoute tout de suite cette scène. Essayez d'écouter les dialogues en anglais, on voit vraiment à quel point c'est tendu, à quel point il se passe quelque chose d'important dans le film. On se retrouve juste après sur Radio Campus Paris dans Panoramique. Common time, on A. Maledictus, second measure, second beat. Maledictus, you see?
Yes, G sharp?
Of course. Yes. Second beat of the third measure, on E.
Famis acribus addictis res. Maledictis famis acribus addictis. Do you have me?
I think so.
Show me. Good. Now the tenors. Fourth beat of the first measure on C. Confutatis. Second measure, fourth beat, D. Maledictis. All right.
Yes, 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 continue.
Second beat of the fourth measure on F.
Famis acribus addictis. Famis acribus addictis.
Now the orchestra. Second bassoon and bass trombones with the basses, identical notes and rhythm. First bassoon, tenor trombones with the tenors.
Don't go too fast.
Do you have it?
Don't go too fast.
Do you have it?
First bassoon, tenor trombone, what?
With the tenors.
Identical?
Of course, the instruments doubling the voices. Now, trumpets in timpani, trumpets in D.
No, no.
Listen to me.
I don't understand.
Listen. It goes with the harmony.
Yes, yes, yes. Yes. Yes, I understand. Yes, yes. And that's all.
No, no, not for the real fire. Strings in unison. Ostinato on A, like this. Next measure is rising. Do you have
yes,
it?
Yes, yes,
show
I
think
me.
So.
It's wonderful.
Yes, 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 yes. Go on. Voca me. Voca me.
Benedictus.
Yes. Call me among the blessed. C major, sopranos and altos in thirds, altos on C, sopranos above.
Sopranos up to F on the second vocal?
Yes.
Yes, yes.
And on dictus?
Yes.
And underneath, just violins, arpeggios. Descending scale in eighth notes, and then back to the ostinato again, and that's it. Do you have it?
Go too fast.
Do you have it?
Go too fast. One moment, please. One moment. Yes.
Good. Show me the whole thing from the beginning.
Vous écoutez toujours Radio Campus Paris. Ce soir, l'émission Panoramique est consacrée à une courte exploration des films sur la musique classique, des biopics un peu particuliers avec des BO elles aussi particulières, puisqu'elles sont en grande partie, on l'a vu, constituées d'œuvres vieilles de plusieurs siècles. On a vu aussi qu'elles étaient souvent rejouées par des figures en vogue de la musique classique, des orchestres nationaux, des grands chefs d'orchestre, et qu'elles étaient aussi assemblées pour laisser une petite place à des œuvres qu'on pourrait appeler contextuelles, qui permettent de souligner en fait soit l'entourage, soit l'enseignement musical du personnage principal. On va terminer ce triptyque qui a commencé avec Tous les matins du monde et Amadeus par un dernier film, Ludwig van B, qui a connu beaucoup moins de succès que les deux précédents, mais qui, je trouve, est tout aussi important dans la grande famille un peu biopique, romanesque, rockstar, compositeur, et sulfureux et tourmenté. En fait, Ludwig van Beethoven ne dérogeait pas à cette règle de rockstar, puisque le vrai Beethoven et le faux, joué dans le film par Gary Oldman, sont peut-être les plus proches, le plus proche binôme que les vrais Mozart et le faux Mozart, ou le vrai Marais et le faux Marais dont on a parlé tout à l'heure, qui sont un peu plus exagérés. En fait, Beethoven, il a cette particularité, en plus, on le sait bien, d'avoir composé une grande partie de ses œuvres alors qu'il était en train de devenir complètement sourd. Donc c'est intéressant aussi de voir dans ce film la place qui est accordée à ce handicap, l'un des plus célèbres, hein, je pense, du monde de la musique encore aujourd'hui. Et quand on voit le film, on comprend en fait deux choses. On comprend l'isolement du personnage, on comprend l'isolement du compositeur, en fait, le fait que sa vie était organisée consciemment ou non autour de sa difficulté à interagir avec ses contemporains, et aussi que sa vie a été organisée autour de ses passions amoureuses. En fait, le titre original de l'œuvre n'est pas anodin, puisque c'est Immortal Beloved. Alors, on dirait un titre d'un album de métal norvégien, mais c'est tout simplement une dédicace très mystérieuse trouvée dans les papiers, en fait, dans des lettres de Beethoven après sa mort. Ce serait une femme à qui il souhaitait adresser ses œuvres, une femme qui n'a jamais été retrouvée. Il y a eu bien sûr plusieurs hypothèses. Tous ses amours ont été passés au peigne fin, mais les historiens continuent à dire que c'est très difficile, voire impossible, de savoir à qui Beethoven pouvait bien penser lorsqu'il a dédié ses pages à ce fameux amour immortel. Alors, la quête de cette femme, c'est le fil rouge, en fait, du film, qui donne l'occasion de parcourir un kaléidoscope assez varié de plusieurs flashbacks sur la vie du compositeur. En fait, ça tout part de son secrétaire Schindler, qui trouve la fameuse dédicace après la mort de Beethoven et qui va se lancer dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'enquête pour retrouver qui pourrait bien être cette femme. Alors, c'est un peu comme l'épisode de The Office, je sais pas si vous l'avez vu, où Steve Carell apprend qu'il a de l'herpès. Il doit appeler toutes ses anciennes copines pour leur annoncer. Sauf que là, c'est pas une MST, c'est une des plus belles sonates d'un des plus grands compositeurs de tous les temps, donc c'est un peu plus chic et moins gênant. On va écouter tout de suite une scène qui est probablement l'une des plus emblématiques du film. Beethoven vient de recevoir une lettre de l'une de ses élèves, Giulietta Giucardi, qui l'invite à venir tester le nouveau piano à queue de son père en catimini. Et en fait, elle va espionner la scène depuis une sorte de cabinet secret par le trou de la serrure, pendant que Gary Oldman, qui joue en Beethoven, vraiment hyper convaincant, je trouve, pendant que Gary Oldman approche le piano. Il est déjà quasiment sourd totalement, en fait, à ce moment de sa vie et donc du film. On le voit essayer de jouer, on le voit s'énerver, il met des grands coups sur le piano parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Et puis, il y a ce moment qui, moi, vraiment me donne les larmes aux yeux quand je regarde le film, où Beethoven, en fait, se penche tout doucement pour poser sa tête de côté sur le buffet du piano. Il a vraiment l'oreille collée, en fait, au buffet pour entendre au maximum tout ce qu'il peut percevoir, en fait, des notes. Et en fait, il se met à jouer la sonate au clair de lune, et c'est un moment vraiment suspendu parce qu'il se croit seul. Il s'énerve quand il comprend qu'il est espionné par Giulietta, qui arrive dans la pièce à ce moment-là et qui est complètement ému par ce morceau. Et en fait, dans la vraie vie, eh bien, c'est à elle que Beethoven a dédié cette sonate, sans doute l'une des plus célèbres de son répertoire. Alors, on sait qu'il a été secrètement amoureux d'elle, ça on l'a appris entre-temps. Elle fait partie des finalistes dans la fameuse quête de l'amour éternel, voilà qui est cette fameuse femme secrète. Personnellement, c'est sur elle que je parie le plus, mais j'imagine qu'on ne le saura jamais. Donc c'est un petit jeu assez peu risqué. On écoute cette scène et surtout ce morceau magnifique et on se retrouve juste après.
Thank you. What is the meaning of this?
Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on approche de la fin de l'émission pour aujourd'hui, mais la bonne, c'est qu'on va se quitter après tous ces morceaux particulièrement sombres sur une note beaucoup plus joyeuse. Vous avez sans doute deviné que cette note joyeuse, c'est un extrait de la 9e symphonie de Beethoven et ce qui s'appelle l'hymne à la joie, bien sûr. Cette pièce permet de comprendre, je pense, l'héritage classique de Beethoven, surtout maintenant qu'on a écouté sa facette la plus romantique avec la sonate au clair de lune. Et puis dans le film, le moment qui me permet d'écouter l'hymne à la joie, c'est un moment qui correspond à une forme de résolution, ou en tout cas une forme d'explication. Beethoven est très âgé, tout le monde sait qu'il est devenu sourd en fait, et il est invité à la première de la 9e symphonie à côté du chef d'orchestre, et en fait le film montre trois choses pendant cet extrait de la 9e symphonie. On voit d'une part le Beethoven actuel, donc Beethoven aux cheveux blancs qui n'entend qu'une version imaginaire de la symphonie, puisque voilà, il y a une partie de la scène qui est filmé entre guillemets de son point de vue à lui, et on n'entend que des bruits assez bizarres. On se doute bien que c'est pas les vraies notes de l'orchestre. C'est une pièce qu'il aura jamais eu l'occasion d'entendre dans la réalité puisqu'il était déjà sourd, comme je l'ai dit. Donc, et aussi on voit la salle qui entend la vraie symphonie qui est magnifique, et on voit en filigrane des scènes de Beethoven enfant dans un flashback où en fait il s'enfuit de la maison familiale où sévissaient les violences de son père. Ça, on comprend qu'à la fin. Et on voit cet enfant, ce jeune Beethoven qui court à travers champs en pleine nuit et qui finit par se jeter dans l'eau froide, et puis il va rester comme ça, sur le dos, dans l'eau, à regarder les étoiles. Et en fait cette scène, elle suggère d'une part que les abus du père de Beethoven ont probablement eu un grand rôle à jouer dans le développement de son handicap. Et puis, avec ce monde féerique qu'il a fini par s'inventer, on comprend aussi qu'il a eu un début de vie difficile, une adolescence très particulière, on comprend pourquoi il s'est progressivement aussi isolé du monde, et on comprend aussi pourquoi les larmes d'émotion lui montent dans le film, quand en fait il y a cette fameuse scène de superposition entre les étoiles du ciel qu'il voyait enfant, et les lumières de la scène de l'orchestre qui se rejoignent en fait pendant la fin de la symphonie. Et puis à ce moment aussi assez troublant, en fait il comprend pas que l'œuvre est finie, puisque lui il entend une version imaginaire dans sa tête qui n'a toujours pas été, qui n'est pas finie. Il comprend pas en fait que les musiciens ont fini de jouer, et c'est le chef d'orchestre qui lui tape sur l'épaule pour le prévenir que c'est la fin du morceau. Et en fait quand il se retourne face à la salle, tout le monde est debout en train de l'applaudir. Alors, on écoute tout de suite cet extrait, on va se quitter là-dessus. Moi, je vous dis à dans 15 jours dans Panoramique. D'ici là, portez-vous bien, écoutez des films, regardez la musique. Je suis toujours pas 100% sûre de ce petit slogan, mais si je trouve mieux, je vous préviendrai le mois prochain. C'était Panoramique. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.
parfois des réalités qui sont intéressantes à manipuler.
Et enfin, tout ça est une question d'imagination et de mémoire pour moi.
Panoramique, une émission sur la musique de film, un dimanche sur deux à 21h sur Radio Campus Paris.
Panoramique.
L'émission qui regarde la musique.
Panoramique.
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 Panoramique. Panoramique.